Bonjour à toutes et à tous, ici Boshra Pourti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation où j'invite une femme de culture arabe à venir partager son histoire et évoquer sa réussite. Mes invitées ont toutes des backgrounds et trajectoires différentes. Elles sont journalistes, entrepreneurs, écrivaines, artistes ou encore médecins, et vous serez, je l'espère, inspirées par leur réussite. L'objectif de ce podcast est double. Tout d'abord, promouvoir une image différente de la femme arabe en mettant en lumière ses parcours exceptionnels, mais aussi aider les plus jeunes ou celles en quête de renouveau à trouver des rôles modèles et ambitionner leur avenir. Ma conviction ultime est que la seule manière d'y croire, c'est de le voir, ou en l'occurrence l'entendre. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à prendre quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est la meilleure manière de le soutenir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre invité du jour. Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Sama Karaki, docteur en neurosciences, fondatrice du Social Brain Institute et auteur du livre « Le talent est une fiction ». Née au Liban en pleine guerre civile, Sama grandit au sein d'une famille au sens large où cousins, tantes et voisins sont très présents. Du fait de leur précarité, elle mène une vie nomade et déménage 21 fois avec ses parents. Cela ne l'empêche pas malgré tout de baigner dans un océan d'amour. Sama nous raconte comment le hasard de la vie et sa rencontre avec Carla, une de ses professeurs, changera à jamais le cours de sa vie. Carla la supporte et l'encourage à s'expatrier en France à l'âge de 23 ans pour y finir ses études. Sama revient sur son arrivée en France et évoque ce sentiment nouveau d'enfin se sentir quelque part chez soi. Nous avons discuté du sexisme dans le milieu scientifique et du mythe de la méritocratie. Sama décortique le syndrome de l'imposteur et décrypte ce que le boom du développement personnel dit de notre société actuelle. Sama ne tombe pas du tout dans l'illusion biographique et retrace sa vie sans filtre. Elle évoque des sujets qu'elle n'a jusque-là jamais partagés publiquement et je la remercie infiniment pour sa confiance. Un épisode très riche qui a suscité chez moi beaucoup de réflexions. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Sama Karaki.
Bonjour Sama.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, très bien, il fait beau, donc je suis très bien avec ce temps.
Je pense qu'on était tous sur les starting blocks pour sortir nos lunettes de soleil et commencer un peu à profiter d'un peu de chaleur. On t'a beaucoup vu récemment dans les médias, dans la presse, et c'était un plaisir d'écouter les thèses que tu as développées dans ton dernier livre, Le talent est une fiction. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais, au-delà de discuter de certains thèmes, j'aimerais connaître un peu plus sa mère, la personne qui est derrière tout ça, connaître un peu plus de ton histoire, et je te remercie infiniment d'avoir accepté d'être mon invitée.
Merci, merci Boshra.
La tradition sur Heya, c'est de commencer par les origines. Donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance, le milieu dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu?
Alors j'ai grandi à Beyrouth, en pleine guerre civile. Donc je suis née en 84 et j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup beaucoup de femmes. Et mon père, il est apparu dans ma vie plus tard. Donc en fait, il y avait beaucoup de tantes, hein. J'ai beaucoup de tantes. J'ai en tout 10 tantes avec beaucoup de cousins. Donc j'ai grandi en fait n'ayant pas conscience que j'existais. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est-à-dire que quand on vit à plusieurs et quand on est les enfants, on mange ensemble, on fait des choses ensemble, on joue ensemble. Et en fait voilà, j'ai les souvenirs d'une enfance très légère et très bruyante. Avec beaucoup de gens. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec la solitude et avec la vie telle que je l'ai aujourd'hui. Ça veut dire être dans des petites boîtes, chacun rentre chez lui. Donc, ça me manque énormément cette vie communautaire. Et en fait, je pense que grandir dans cette, je donne toujours cet exemple que le Liban c'est tout petit et on est en présence de gens qui sont très très différents. J'ai eu dans mon enfance cette conviction que nous avons tous une histoire qu'on se raconte pour aller bien, pour être cohérent avec soi-même. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les prémices de mon intérêt au comportement. Ça veut dire que dans des contextes de guerre civile, je me demandais, et je demandais des fois à voix haute, c'est que si on est les si on est les meilleurs, est-ce que les autres savent qu'ils le sont pas? Donc en fait, et ça c'est vraiment fondamental dans les sciences cognitives, c'est-à-dire de réaliser que nous avons une perspective du monde qui est nourrie de notre histoire et qui nous arrange en quelque sorte. Et qu'en fait, bah, du coup, je pense que ça, c'était un privilège pour moi. Alors, bah, je dirais, la guerre, c'est un privilège, mais dans le sens où, oui, c'est un privilège de partir très tôt dans la vie avec cette conviction que le monde est complexe, qu'il faut pas le déformer avec des certitudes.
Tu parlais de cette grande famille, tes tantes et ses cousins. Est-ce que tu avais des frères et sœurs?
J'avais une sœur, on se fondait l'une dans l'autre. Enfin, j'ai toujours cette sœur qui est pour moi une personne juste enfin, impossible à interpréter, à décrypter parce qu'elle est d'une bonté déstabilisante. Moi, je me sens comme un monstre à côté d'elle. Je suis toujours en fait, elle me parce qu'elle est elle est très spirituelle déjà. Moi, je le suis pas du tout et elle est dans une forme d'amour inconditionnel. Qui, je crois, fait partie des béquilles psychologiques de ma vie. J'ai eu des frères plus tard, parce qu'il faut bien faire des garçons, hein. et donc mes parents, ils ont 10 ans après ma naissance et celle de ma sœur, ils ont fait voilà deux garçons qui se sont rajoutés à cette grande famille, qui était la famille avec qui on vivait, avec les cousins et tout ça, mais aussi on était souvent dans la rue dans mon enfance et il y avait tous les garçons et les filles du quartier. Donc ce qui faisait que les notions un peu de sœur, frère, cousin, cousine, voisine, voisin, tout ça tout se mélangeait par les gens de ma vie. Et après on dirait à partir de l'adolescence, on avait un modèle familial plus contemporain avec cette cellule. Et là, c'était beaucoup moins lumineux que...
Parce que vous avez déménagé?
Oui, nous avons beaucoup, beaucoup déménagé. Donc, on a déménagé avec ma sœur, on a compté jusqu'à 21 fois avant que je parte du Liban. Ce qui fait que la notion de la maison, elle a... c'est une illusion. Je dirais que c'est une illusion, mais je suis attachée à l'idée que d'avoir un chez soi, de savoir que ces choses se rangent ici, se rangent là. Mais je sais pas, en fait, si ça vaut quelque chose. C'est juste que c'est comme un univers qui a toujours été nomade. Et voilà, je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui fait les fondements de ce que je suis, c'est-à-dire cette facilité que je dirais que j'ai à passer d'une réalité à une autre. Voilà, ça, c'est pour... Quand je cherche à expliquer qu'est-ce qui fait qu'on devient des choses et qu'on fait des choses, je trouve dans cette vie nomade ancrée dans un amour quand même une forme d'explication.
Et cette vie nomade, c'était dû à la profession d'un de tes parents, c'était pour des raisons personnelles, parce que 21 fois, c'est pas mal.
Oui. Alors là, ça devient, tu sais, quand on parlait, je disais que je m'exprime peu sur cette part, mais c'est vrai que elle est due simplement à la précarité de notre condition à cette époque, et donc voilà, et on louait des appartements, et voilà, il y avait une conscience très tôt dans notre vie avec ma sœur de cette précarité là, et qu'il y avait très peu d'issues en quelque sorte. Qui sont liés au statut socio-économique, mais aussi liés à la condition hein, du pays. Donc il y avait à la fois le sentiment d'être dans une impasse, mais aussi un sentiment implicite qu'on va s'en sortir. Je sais pas par quel moyen. Moi, j'avais un projet de me marier très tôt. Je me disais, il faut que je me marie très tôt, comme ça je pars. Et après, je commence à faire ma vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de quand je me rappelle de cette idée qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui n'est pas très qui sera pas très macho, comme ça il me laisserait faire mes choses, mais en fait tellement il y avait pas d'issue que c'était la seule que je voyais.
Au-delà du mariage, est-ce que tu pensais pouvoir potentiellement faire quelque chose via l'école? Est-ce qu'il y avait un métier peut-être qui t'intéressait?
Alors oui, l'école a joué un rôle central. Alors d'abord parce que j'y ai rencontré mes amis, qui sont toujours mes amis. On est resté dans la même école depuis qu'on avait 3 ans. Ça, c'est un cadeau de la vie, d'avoir ces mêmes personnes. on était que des filles. Donc on est un peu une troupe qui s'accompagne, même si on a des vies très différentes. Et l'école aussi, c'était quelque chose. En fait, j'osais pas l'avouer quand j'étais, mais j'ai toujours été nerd. Et en fait, je sais que maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dû être chiante pour les autres, parce que j'étais toujours quelqu'un qui levait la main et qui aimait les profs et qui aimait l'école, quoi. Donc j'ai vraiment aimé l'école. Alors c'était une école francophone dans notre quartier populaire. On n'était que des filles, on était à peu près 40 filles qui sont un peu pour moi comme ça les traits de caractère. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un est comme ça, je vais utiliser plutôt le nom et prénom d'une de ces filles. Enfin, elle représente un peu l'arc-en-ciel comme ça de traits de personnalité. Et en fait, à l'école, j'étais très à l'aise. J'étais très à l'aise avec cette forme d'évaluation des compétences cognitives. Je suis très consciente que c'est une forme à laquelle j'aimais bien cette façon-là de. Alors il y avait des matières qui fonctionnait mieux que d'autres. J'étais très attirée par les matières littéraires. Et par contre, comme j'avais des bons résultats dans les matières scientifiques, il était évident, et ça c'est un héritage très noir, hein, de cette façon cartésienne de voir d'aborder le savoir, qu'il y a des sciences dures et des sciences molles. Et si on était bon en sciences dures, il fallait absolument prendre cette voie. Et finalement, voilà, j'ai toujours voulu être écrivaine. Mais il fallait quand même partir en sciences et en faire des maths, faire des physiques, faire des choses qui payent plus tard. Cette obsession de la rentabilité a accompagné aussi ce parcours scolaire. Je le dis dans le livre qu'on disait que les filles qui avaient de bons résultats, on les appelait chatra, ça veut dire qu'elle est brave, courageuse. Et celles qui avaient de mauvais résultats, c'était une kaslene, ça veut dire oisive, fainéante. Et en fait, moi-même, j'avais une croyance très forte en le mérite et en le talent et en la force du travail. Et en fait, c'est un modèle très libanais. Donc, il fallait d'abord que j'arrive à me défaire moi-même de ces idées pour que je puisse aborder l'apprentissage différemment.
Je pense que c'est au-delà de libanais. Je pense que c'est un peu un mindset, en tout cas de notre génération. On est de la même génération. J'ai l'impression que c'est vraiment un état d'esprit qui allait probablement au-delà du Liban et qui était très présent, peut-être plus générationnel que lié à un pays. Et du coup, donc, très bonne en sciences, en mathématiques. Est-ce que tu commençais à visualiser peut-être un métier, l'ingénierie, la recherche? Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait tôt dans ton esprit?
Pas du tout. Et je me méfie beaucoup des illusions biographiques dans lesquelles on aime bien dire « j'ai eu cette vocation ». Pas du tout, j'avais aucune ambition, ni académique, ni professionnelle. Je n'avais aucune visibilité sur le futur. Je savais que je voulais faire des choses, mais je ne sais pas comment, par quelle voie. Je voulais écrire, je voulais devenir scénariste ou comédienne. Donc ça, c'était des désirs, des appétences qui venaient de temps en temps. Et par contre, la biologie, la recherche, d'abord, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas comment on arrivait à être chercheur. Je pensais que c'était juste quelqu'un qui découvre des choses. Donc, j'avais vraiment une vision très basique, très naïve. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon attachement à cette idée de capital informationnel. C'est-à-dire, comme dans ma famille, il n'y avait pas de personnes qui faisaient des études, mais en fait, ça n'existe pas. Cet accès même au rêve n'existe pas. Ça peut pour rêver, mais il faut accéder à cette possibilité du rêve. Donc pour moi, je voulais être dans l'hôtellerie à un moment donné. Après, je voulais être dans la politique. Après, j'ai toujours aimé prendre la parole, et écrire des textes et revendiquer des choses. Voilà, je dirais que ça peut-être expliquer mon intérêt pour la transmission. Mais je me force pas à trouver des liens logiques dans les parcours, les grandes décisions de ma vie, comme celle de partir en France. C'était un pur hasard pour lequel je n'ai pas travaillé du tout, qui a été vraiment poussé par les autres, hein, par une prof à la fac, là où j'étais à Beyrouth. Et voilà, c'est pas venu comme ça après réflexion, avec cette illusion que nous avons que par la force de la volonté, on peut architecturer, designer nos vies. En fait, la majorité de nos décisions naissent d'automatisme. En tout cas, pour mon parcours scientifique, ça n'a jamais été une volonté active et consciente de ma part.
C'est très intéressant et je trouve que c'est très rafraîchissant d'entendre ça. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup, la plupart des grandes histoires qu'on entend sont très romancées. Et puis c'est une évidence. Et puis depuis tout petit, je fais ça et j'ai toujours rêvé de ça. Et je trouve que c'est un effet un peu culpabilisant aussi pour les plus jeunes d'angoisse, de se dire « Ah mince, ben moi j'ai rien, je vois rien, je j'ai pas encore de vision sur ce qui m'intéresse, etc. Et » Et comme tu dis, il faut un, le voir socialement et autour de soi, et aussi prendre le temps, parce qu'il y a une maturité, il y a des choses qui se font, il y a aussi l'expérience, essayer des choses, et ça demande du temps.
Oui.
Et on est beaucoup dans du temps court, où les choses sont évidentes, et tout de suite, et du coup on culpabilise rapidement dès que ça prend un peu plus de temps.
Oui, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup chez des personnes qui cherchent quel est le métier qui est fait pour moi, pourquoi je suis fait ou faite. Ils vont faire ces tests de Ikigai ou je ne sais pas quoi. Comme s'il y avait en fait une meilleure version de nous-mêmes qui est cachée quelque part, dans laquelle il y a toutes les réponses et qu'il faut juste qu'on cherche et qu'on la trouve. Ça, je me méfie de cette façon d'aborder les trajectoires, mais aussi je me méfie des récits que certaines personnes transclasses ou certaines personnes qui ont eu une forme de réussite sociale ou économique, qui viennent donner une histoire simple, logique, linéaire de leur parcours. Donc en fait, c'est une illusion parce que il y a une grande part, alors je dirais du hasard, mais aussi une grande part du rôle des autres de comment sont faits nos parcours. Bah, ça complique l'histoire à raconter, donc on cherche des histoires simples. J'étais là, j'ai rêvé de ça, quelqu'un m'a dit cette phrase, et cette phrase a façonné le reste de ma vie. En fait, ouais, c'est simpliste par rapport à la complexité de la vie.
Et comment tu arrives donc en France? Donc tu nous as donné un peu des brides de cette professeure qui t'a poussé, aidé, je ne sais pas quel est le bon terme. Comment tout ça se façonne?
Alors voilà, elle s'appelle Carla et c'était ma prof de biologie végétale et qui m'a demandé pourquoi je partais pas en France. Et en fait, c'était justement juste cette question. J'étais, mais comment ça, c'est très compliqué d'aller en France. Et en fait, elle a simplifié ce qui peut paraître très complexe, comme la majorité des choses de nos vies. C'est-à-dire, il y a beaucoup. En fait, il faut juste mettre un pied et puis mettre l'autre et puis mettre l'autre. Et en fait, il faut avoir du soutien tout au long de ce chemin. Mais quand on est isolé de ces possibilités, ça nous paraît très compliqué. Ça nous paraît très compliqué, donc en fait, une grande part de ce que je fais quand je travaille avec les jeunes, c'est juste de montrer que, voilà, le chemin, c'est dur, voilà, mais il est faisable, la faisabilité, voilà, il y a des théories comme ça qui montrent juste que il y a des éléments, mais ce n'est pas aussi réservé aux autres que cela. Donc ça c'est primordial pour moi. Et donc Carla, elle me fait ça, elle me montre de quoi il est fait ce chemin. Et elle m'aide à tous les niveaux, ça veut dire elle prend mon billet d'avion, elle m'aide à remplir mon dossier de candidature, elle m'aide à choisir mon master, elle me trouve le premier logement que j'ai eu à Montpellier, et voilà, donc ça c'est une personne clé. Et l'explication par Carla est beaucoup plus logique que l'explication par ma propre volonté, hein, parce que c'était quelqu'un qui disait voilà, fais ça, ça te va pas, tu reviens l'année d'après. Je n'ai jamais compris d'où est venue sa motivation, mais voilà, je lui dois, comme je dois à beaucoup de personnes, d'avoir joué des rôles à des moments charnières. Donc, j'ai intégré le master de biologie évolutive à Montpellier, sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Hein, je comprenais le dixième des cours. Déjà, ça parlait français très vite. Et ça parlait de choses que je n'avais pas du tout vues au Liban, parce qu'on parle pas d'évolution au Liban. Et en fait, j'étais vraiment très paumée. Je me disais, c'est pas fait pour moi. Il faut que je trouve un travail. C'est au cours de mon stage de master que j'ai rencontré des neuroscientifiques, parce que je travaillais sur la mémoire des oiseaux. Et je me suis dit, j'aime bien cette. Voilà, c'est un autre. C'était vraiment un désir. J'ai eu du désir pour ce domaine. Parce que ça traitait de mémoire, d'émotions et tout ça, tout en étant dans un cadre scientifique. Donc c'était tout ce que j'aime, réuni en une seule discipline. Et j'ai toujours le béguin pour les neurosciences. Quoi. Ça me fait vraiment littéralement battre le cœur des fois quand je lis un article. Ce qui est vraiment très, encore la part nerd qui est en moi.
Quelle dame cette Carla, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait avec plusieurs personnes? Est-ce que c'est un peu une vocation qu'elle avait d'aider et de propulser des gens, ou c'était essentiellement avec toi?
Eh bien, en fait, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir quelle a été sa motivation, qu'est-ce qu'elle voyait. J'en parle pas très souvent et je pense que c'est, voilà, comme j'en parle aujourd'hui, ça fait sens et je vais lui poser la question. Pourquoi t'as fait ça?
Tu me diras. Et comment se passe l'arrivée en France? Parce que tu disais que au tout début de ta conversation, de l'une de tes conversations avec Carla, elle te dit pourquoi tu ne pars pas en France et c'était l'impossible. C'était, je sais pas si c'était l'Eldorado, mais c'était quelque chose d'inatteignable de là où tu étais petite fille ou jeune fille au Liban. J'imagine qu'il y avait probablement aussi un fantasme qui était associé avec la France. Comment se passe un peu cette confrontation avec la réalité?
Déjà, la France, je l'avais découverte à travers les livres, la littérature et le théâtre. Et j'avais un fantasme très, très fort qui est complètement fantasmagorique, quoi, par rapport à ce qu'on vivrait en France. Paris, juste le mot Paris faisait naître en moi des émotions, en fait, comme ça, de la faim de vivre. Quand on sent que je veux vivre, mais je ne sais pas quoi, mais j'ai un appétit pour la vie que ce mot provoquait. Je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de gens sur Terre. Donc, je me sens très, très... je me sens toujours privilégiée. Enfin, un peu comme les neurosciences, je suis toujours amoureuse de Paris. Et il y avait aussi cette peur et cette appréhension parce que les personnes qui partaient en France ne me ressemblaient pas. Donc, c'était déjà des personnes... qui avait des moyens, qui avait de la famille. C'était pas, enfin voilà, j'étais pas une quelqu'un de francophone. Je ne me voyais pas comme telle au Liban. Et en fait, l'arrivée, des fois, je revois cette Sama à 21 ans et je me dis waouh. Enfin, je suis trop fatiguée aujourd'hui pour refaire ce que je faisais avant. Je veux dire, je me dis là, j'arrive à peine à voir la vie que j'avais. Les choses que j'accumulais, que j'enchaînais, c'était juste incroyable. L'énergie que j'avais. Donc, voilà, c'est venu avec beaucoup de curiosité. Alors, je parlais mal français, mais je parlais beaucoup. Bon, ça, je pense que ça n'a pas changé. Mais du coup, ça a fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé à devenir aussi des personnes clés dans ma compréhension à la fois de la science. C'est des personnes qui sont toujours pour moi, hein. On avait le même âge, hein, mais ils étaient pour moi et elles étaient pour moi des modèles de réflexion scientifique que je n'avais pas du tout. Mais aussi, je découvrais une autre façon d'aborder l'art et l'écriture. Et après, voilà, c'est les amitiés, c'est les amours, c'est les métiers que j'enchaînais et c'est à côté de cela se passait mon parcours scientifique. Donc voilà, c'est 17 ans, ça fait 17 ans que je suis en France. Voilà, je commence peut-être cette année, c'est marrant, hein, à sentir que je suis chez moi. Bon, ça a pris longtemps. J'ai toujours senti que j'étais de passage. Et là, je commence peut-être parce que mon fils, il a 6 ans, il est en CP, il y a ce truc territorial. Et je commence à sentir que j'appartiens. Et donc, la façon avec laquelle je prends la voix... par rapport à la publication du livre et même, voilà, comme notre échange, je sens comme ça, j'observe, je me dis, t'es bien là, en fait. je parle avec légitimité, chose qui était invisible, mais qui était là, ce sentiment de ne pas appartenir.
Et c'est apaisant, ça fait quel sentiment de se sentir appartenir et chez soi après toute l'histoire que tu nous racontes?
Oui, je pense que ça fait qu'on ne se pose pas cette question et donc on est disponible pour faire autre chose. Mmh. Parce que quand on se pose la question « est-ce que j'appartiens ?», ça nous préoccupe. Il y a une part de nous qui cherche à se trouver une place. Donc en fait, c'est pas que je dirais que j'appartiens, je dirais clairement je ne me pose plus la question. Je ne me pose plus la question de comment je suis reçue, de comment je suis validée, de comment je suis jugée, de « est-ce que je suis les codes ?». D'un coup, je me dis « je fais autre chose en fait ». Je fais autre chose, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de vivre sur place. Pas nécessairement la mienne, mais je suis là, ancrée dans la géographie dans laquelle je vis.
Sama, tu fais partie du milieu scientifique, donc quand tu arrives à 21 ans, fac de sciences, enfin, tu es dans ce milieu-là qui est, en tout cas en termes de métier, pas très diversifié. Je voulais savoir comment se faisait un peu ton intégration à ce moment-là en tant que Libanaise, parlant, comme tu disais, pas un français parfait, fraîchement arrivé du Liban. Est-ce que ça a été compliqué?
Alors, le sexisme dans le milieu scientifique, je ne l'ai pas vécu dans mes études, mais plus après, quand je commençais à intégrer les laboratoires. Ça veut dire quand on commence à vouloir avoir des points de vue sur la recherche, c'est là où je sentais que on regardait pas les femmes en fait. Et c'est quand les hommes parlent, ça devient plus intéressant. Alors qu'en fait, dans mon parcours, ça veut dire en arrivant en master, je me rappelle que il y avait déjà des filles et des enseignantes qui représentaient pour moi toute la brillance scientifique que je garde d'ailleurs beaucoup d'admiration pour. Pour, par exemple, particulièrement une fille qui s'appelait Aurélie Caillot, ça s'appelle toujours Aurélie Caillot, et pour moi, j'étais juste sidérée d'avoir le même âge et d'être en train de faire le même master et de voir quelqu'un qui a l'air d'avoir tout compris, enfin, qui a tout compris, quoi. Donc, je me posais pas ces questions. Mais après, quand j'ai commencé à faire mes stages, c'est là où je voyais les hommes sortir fumer et parler science. Je commence, en fait, ce qui nourrit aussi ce que j'écris dans le livre à un moment donné, c'est qu'en fait ça nous appartient, on n'est pas là quoi, on n'est pas, même si il n'y a aucune politique qui nous empêche de faire ces métiers, il y a des métiers qui sont plus ouverts, qui sont plus bienveillants envers les hommes que envers les femmes. Et ça, je pense que je suis en train de l'analyser encore avec une autre chercheuse qui fait la même chose dans le milieu de l'art, et pour en fait essayer de décrypter par où en fait Où sont les bifurcations qui font qu'on commence à perdre de la confiance en tant que femme, et qui peut expliquer le gap. Bien sûr, je refuse de l'expliquer par une préférence naturelle biologique au métier de soins par rapport au métier scientifique. Donc, elle est où, comment peut-on analyser ce qui se passe pour qu'on se sente moins légitime dans un domaine ou dans un autre? Mais ça c'est pour parler du sexisme. Après, mon intégration sociale, c'est bien fait, des fois mal fait, parce que voilà, on rencontre tout type de personnes. Mais je pense que je suis très fidèle en amitié. Donc je traîne les mêmes amis depuis toujours. J'investis. J'aime bien l'idée de créer, d'avoir de l'ancienneté dans les relations. Et en fait, j'ai des amis de ces premières années. Et c'est joli parce que on a beaucoup changé, et on a beaucoup d'époques comme ça, de phases de comment on a évolué. Et en fait, c'est des personnes qui ont, je dirais, qui m'ont accepté tel que je suis. Et ça c'est encore une chose qui permet de ne pas y penser, et donc de faire autre chose, de ne pas se demander à ce que les autres m'acceptent comme je suis, donc de faire autre chose. Donc en fait, pour moi, c'est un capital. Je sais pas comment on l'appelle, capital amour peut-être, mais c'est un capital. Ça s'ajoute à ce que Bourdieu, dans les capitaux de Bourdieu, il y a le capital de juste sentir aimé. Je pense que j'ai trouvé que j'avais du privilège à ce niveau, même si c'est pas beaucoup de personnes, et d'ailleurs je peux être très énervante pour beaucoup de gens. Mais par contre, il y a ce cercle. Je commence de plus en plus, en fait, à vouloir ouvertement apprécier cette valeur que sont les autres qui nous aiment et qui nous apportent de la légèreté, des fois de la profondeur et du partage. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup de valeur qui n'est pas assez analysée et pas assez reconnue. Voilà. Donc, est-ce que ça a été smooth? Ça l'était pas, mais c'était pas non plus particulièrement difficile, hein. Je j'étais étudiante, j'avais les privilèges des étudiants en France, hein. C'est chose qu'on n'a pas au Liban. Et après, j'ai été boursière pour faire mon doctorat. J'étais la reine du monde, hein, et je considère que je le suis toujours, hein. Le fait de pouvoir travailler dans le domaine dans lequel pour lequel mon cœur bat, après, il y a eu tous les hauts et les bas que je ferai mille fois. Parce que je ne sais pas par quelle voie j'ai fini par avoir la vie que j'ai aujourd'hui, dans laquelle il y a mon fils, que je suis en adoration, et dans laquelle il y a les gens que j'aime.
Sama, ce que tu racontes, et ce qu'il y a dans le livre m'a fait penser à quelque chose, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis. C'est, on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur, en général, et pour les femmes encore plus. Et quand j'entends la déconstruction du terme talent, à laquelle j'adhère complètement, entre parenthèses, je me dis, est-ce que ce syndrome de l'imposteur est vraiment un problème? Parce qu'on n'arrête pas, il faut l'enlever, il faut arriver à le surmonter, etc. Et au final, est-ce que c'est pas tout ce que tu viens de dire? Être consciente, je l'utilise au féminin parce que je me l'associe peut-être ici, mais être juste consciente de tout ce que tu dis, du facteur chance, du facteur social, et qu'en fait, toute la réussite, si réussite il y a, n'est pas juste due à notre volonté, et tous les rewards, toutes les choses positives qu'on en dit, ne sont pas que pour nous. Et c'est un peu la manière avec laquelle je lis, moi, ce syndrome de l'imposteur, où on dit, non, mais j'ai eu de la chance, non, mais on m'a aidé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment ce fameux syndrome de l'imposteur comme quelque chose à
Alors,
enlever?
il y a plusieurs niveaux. D'abord, moi, je pense qu'on est plus intéressant dans notre capacité de penser quand on se pose pas ces questions. Ça veut dire quand j'arrive et je me demande pas est-ce que je suis jugée, est-ce que je suis validée, est-ce que je suis voilà. Ouais. Quand on y va et on est dans la pensée. Hier, je parlais avec un ami qui a designé une robe pour Beyoncé. Et moi, j'arrêtais pas de le charrier. Tu dis, mais tu as fait une robe pour Beyoncé, waouh! Et il me disait, mais en fait, quand je travaille, je pense pas à pour qui elle est cette chose. Je suis dans la processus. Et je disais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. On se pose pas la question de l'outcome, de la performance. On est vraiment dans l'acte même. Et donc, en fait, l'opposé de cela, c'est quand je suis en train de me demander, est-ce que les autres pensent ceci ou cela de moi, et donc je suis dans ce syndrome dans lequel je suis en train de me questionner sur ma légitimité d'être quelque part. Alors jusque-là, ok, on est en train de dire aux autres qui sentent ce syndrome, travaille sur tes croyances, défais-toi des croyances limitantes, et c'est là que ça me pose problème aussi, parce que ce qui fait qu'on se sent légitime quelque part, ce n'est pas un travail individuel, c'est pas moi qui agis sur ces croyances. C'est est-ce que le lieu m'accueille aussi? Et donc, en fait, j'aborde ce syndrome de double, c'est-à-dire à la fois, il faut qu'on se détache de ce besoin continu d'être validé, mais à la fois aussi, il faut que les environnements, les systèmes dans lesquels nous circulons nous donnent cette légitimité et font qu'on se pose pas ces questions. Et donc, est-ce que c'est dans le milieu scientifique, il faut aux filles de se dire, aux femmes de se dire, je suis ou des personnes qui sont pas dans une binarité sexuelle qui se disent je suis légitime, ou est-ce qu'il faut que ce lieu ne ressemble pas à un lieu qui n'accueille que des personnes qui se comportent comme des hommes, quoi. Et c'est pareil dans le milieu professionnel, ce n'est pas aux femmes de travailler sur ce syndrome d'imposteur, c'est aussi aux hommes de se taire, d'écouter, de baisser la voix, pas aux femmes de lever la voix. Troisième niveau, ça se complique un peu, c'est que, en fait, se dire je suis pas légitime pour m'exprimer sur un sujet, des fois c'est vrai. En fait, je pense qu'il y a aussi, faut pas non plus pousser trop loin quand cette confiance en soi, cette estime de soi, d'ailleurs, il faut pas que notre estime de soi soit conditionné par nos réalisations, hein. Il faut que ça soit complètement séparé, hein. Ce que je fais comme, ce que j'ai comme compétence, ce que j'ai comme savoir, ne représente pas ma complexité. Par contre, il faut aussi que je sois en paix avec l'idée qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas légitime pour parler, hein. Ça nous fera tous du bien si on se pose plus la question de est-ce que je suis bien placée pour parler de certains sujets. Moi, par exemple, à la sortie du livre, je voyais, bien sûr, hein, je savais que le titre est provocateur, je voyais que ça, les gens allaient interagir, mais des fois, les gens étaient avec ils s'exprimaient avec une certitude juste incroyable, tout en me reprochant les certitudes d'une scientifique. Je dis, mais vous, les scientifiques, vous êtes plein de certitudes. Et après, défiler, en fait, un florilège d'arguments très certains. Et là, en fait, j'avais des fois envie de dire, mais en fait, est-ce que vous êtes légitime pour vous prononcer? Parce que vous savez de quoi vous parlez. Et parce que, en fait, si vous voulez, vous savez de quoi vous parlez, sans m'attaquer à moi personnellement, ça peut être très passionnant comme conversation.
Absolument. Est-ce que tu penses que la méritocratie, c'est quelque chose qui existe vraiment?
Alors, est-ce que ça existe dans le sens, est-ce qu'on n'est pas dans un idéal méritocratique dans lequel on considère que ceux qui réussissent doivent être ceux qui méritent cette réussite et qu'ils méritent donc tous les privilèges qui viennent avec. Donc oui, on est dans un idéal méritocratique. Beaucoup de gens partagent cet idéal parce qu'en fait, il a dedans une promesse de réalisation de soi. Ça veut dire, on a des talents, on travaille, on mérite, on réussit, on est reconnu pour cette réussite, tout va bien. Or, comme je ne crois pas à la valeur du talent ni à celle du travail quand on n'a pas les bons capitaux pour les fructifier, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on n'a pas des prédispositions et je ne dis pas que le travail ne compte pas. Ce que je dis, c'est que ces choses n'ont pas de valeur si elles ne sont pas placées dans le bon, dans la bonne contingence historique, culturelle, s'il n'y a pas les bons dispositifs. C'est-à-dire, on peut suer toute la vie, mais personne, il n'y a pas Carla qui nous dit pourquoi tu vas pas en France. Et voilà, en fait, c'est tout simple. Ou on peut ne pas savoir, ou on peut ne pas être soutenu, ou on peut ne pas avoir le simple capital pour faire les études qui nous intéressent. Et tout cela est écrasant d'influence. Et donc, est-ce qu'on peut, dans un monde dans lequel existent des inégalités, dans lequel on subit pas les mêmes discriminations, on subit pas les mêmes histoires, oser dire que ce qui explique la réussite, c'est l'équation individuelle du talent individuel plus le travail individuel. C'est en ça que c'est un mythe, parce que nos compétences reposent sur nos corps, et nos corps sont influencés par la géographie, par les histoires, même par la nourriture que nous ingérons, et tout cela revient à l'environnement. Ce que je pense et ce que je défends, ce n'est pas une croyance, c'est que je défends même scientifiquement, c'est que c'est une manière très réductionniste d'expliquer nos parcours par un potentiel individuel, parce qu'il y a beaucoup de niveaux par lesquels ce potentiel se fait, se fait travailler par la vie et par le vécu et par les environnements. Beaucoup de paramètres même nous sont invisibles. On sait même pas qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qui fait que j'aime ça, que je n'aime pas ça, qu'est-ce qui fait que j'aime les neurosciences. Impossible à décrypter, impossible à trouver quelles sont les racines de cet amour. Et en fait, moi je me dis, arrêtons de s'acharner à vouloir les trouver en soi. Elles sont en grande majorité à l'extérieur de cette citadelle qu'est notre corps.
C'est hyper intéressant. Il y a clairement cette vision de l'individu versus le collectif et le travail à faire sur le collectif aussi, et de pas tout mettre sur l'individu. Et ça me fait, on est vraiment dans une ère de développement personnel. Je pense que le nombre de coachs n'a jamais été aussi nombreux et a boomé comme récemment. Il y a ce terme qu'on entend H24 et qui personnellement, moi, me mérite un peu, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que cela dit de notre société?
Alors, déjà, cela dit deux choses. D'abord, que nous sommes paumés, parce que sinon, ce serait pas à la recherche de réponses. Donc, d'abord, j'ai beaucoup d'empathie pour toute tentative d'aller bien. Donc, ça, c'est, on fait ce qu'on peut, on prend ce qu'on trouve autour de nous. Si c'est la religion, on prendra la religion. Si c'est une pratique de développement personnel, on prendra ça. Après, j'ai deux réserves. Première, c'est la validité de ces méthodes quand on ne fait rien pour adresser les vrais soucis systémiques. Ça veut dire qu'en fait, le bien-être individuel est pour moi clairement une question politique, une question sociale, une question qui implique les lieux que nous traversons, les gens que nous rencontrons, les formes de travail que nous faisons, tous les environnements dans lesquels nous circulons, en fait, conditionnent notre bien-être. Donc, je trouve complètement inefficace d'aller soigner l'être quand on soigne pas l'environnement. C'est un peu comme si on imagine que une abeille irait bien si son essaim d'abeille brûle, ce que dit Marc Aurèle, que si l'essaim brûle, l'abeille n'ira pas bien. Et donc, voilà, déjà, il y a l'inefficacité de cette approche d'aller guérir les symptômes sans s'attaquer à la source du mal. La deuxième réserve, c'est le fait que, bien sûr, ça nous détourne de nous attaquer à la source du mal, mais que aussi, ça nous renferme sur nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est l'opposé du bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, le bien-être, c'est quand on pense plus à soi-même. Le bien-être, c'est quand on est libre dans notre esprit, disponible. Enfin, quand je dis libre, attention, je dis pas libre, qu'on a l'espace de penser à autre chose, de vivre autre chose. En fait, c'est ça, la vie, quand on est présent, mon capital présence. Et en fait, du coup, je trouve très contradictoire que pour échapper à soi, on se penche sur soi. Je pense que c'est très nombriliste et très narcissique. Je vais pas le juger comme on va le faire parce qu'on est dans cette démarche narcissique. Mais je trouve que se regarder le nombril et aller fouiller dans notre vie, à vouloir s'optimiser, atteindre des meilleures versions de nous, cette obsession de nous-mêmes, est-ce qu'elle ne nous détourne pas d'une relation immédiate au monde, dans laquelle on voit pas le temps passer, dans laquelle j'ai dit je me suis oubliée, quand on est avec les gens, quand on est en train de pratiquer à des choses que nous aimons faire. Bon, c'est ça la vie, hein. C'est un peu comme l'enfant quand il joue, il se met dans des situations qui sont très handicapantes, il fait n'importe quoi, il meurt, il revit, en fait, mais justement, c'est parce qu'il s'oublie. Moi, je suis par exemple maintenant dans une phase de développement personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une phase où je me dis « Wow, qu'est-ce qui se passe? On va où ?» De temps en temps, il faut qu'on regarde un peu. Mais je ne peux pas passer ma vie à le faire. Je veux dire, c'est une phase. Hein. Déjà, j'en ai marre là. Ça fait... je commence il y a 3 semaines, je me dis « Là, c'est bon. » Parce qu'en fait, mon approche du bien-être, elle vient aussi de ce que j'en sais, de ce qu'on en sait, de l'état actuel des connaissances sur ces questions. C'est qu'en fait, nous avons besoin d'aérer notre pensée, on a besoin de plus le cerveau, il est penché sur les processus de travail et d'apprentissage, et plus on vit du bien-être en fait. Il y a un bien-être qui surgit même de la concentration sur un sujet. Et en fait, cette recherche, cette quête qui, à mon sens, n'aboutira à rien parce que le sens, la meilleure version de soi, le bonheur, je sais pas ce que sont ces choses et s'il y a moyen de les trouver. Donc en fait, cette quête nous ralentit dans ce rapport immédiat et présent au monde.
On parle de collectif, on parle de la dimension politique, de la dimension au-delà de l'ego et de la personne. Si demain, Sama, tu étais nommée ministre, un poste ministériel, quel qu'il soit, quelle serait selon toi la première réforme à faire?
Ouf. Il faut choisir. Je pense que c'est des choses qui se font déjà, hein, mais je pense que je prendrais ça très au sérieux en tant que ministre. Et je pense que ça serait au niveau de l'éducation. Je ferais en sorte que l'école ne soit pas simplement un lieu d'évaluation, que ça soit aussi un lieu dans lequel on apprend à penser. Quand je dis apprendre à penser, ce qui à la base, ça doit être l'objectif de ce lieu-là, en fait, on apprend la philosophie, on apprend les enjeux sociétaux, on apprend en fait les problèmes critiques de la société. Donc, on apprend en fait la tolérance à l'autre dans cette école, parce que en fait, j'ai un grand intérêt dans la jeunesse. Quand je dis ça, je parie un peu, je me dis maintenant, ça, je parle de la jeunesse comme si j'en fais partie. Mais c'est vrai qu'en fait, de plus en plus, je rencontre des jeunes et je me dis, c'est bon quoi, ils ont tout compris, elles ont tout compris. Et je me dis, moi, je peux maintenant vivre autre chose parce qu'en fait, j'ai l'impression que je pense qu'on va être remplacé sur Terre par des gens qui sont mieux que nous. Après, peut-être que c'est une illusion, mais du coup, est-ce que c'est pas au sein de cette école qu'il faut que nous ayons une forme d'éducation aux enjeux du monde et une éducation critique? Et donc, en fait, dans la réforme, ça veut dire qu'on regarde et qu'on se dit dans toutes les matières qu'on est en train d'apprendre, est-ce qu'on est toujours dans la guerre froide où ce qu'on valorise le plus, c'est les compétences logico-mathématiques qui font de nous des ingénieurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nous intéresser à d'autres formes de compétences qui sont pas évaluées, d'ailleurs qui sont pas évaluables peut-être, comme celle de tolérer l'ambiguïté, comme celle de pouvoir réfléchir à repenser le monde, négocier nos différences? Et je pense que ça doit passer par une formation des éducateurs et éducatrices à ces enjeux pour que elles et eux aussi ne soient pas obsédés par cette quête continue d'évaluation et de distinction. C'est ça aussi le problème quand dans le livre, j'en parle aussi, c'est que quel est le problème avec le talent? C'est que c'est une mesure de distinction. Et ça nous met en compétition. Et en fait, ce ne peut pas être coexistante, cette quête ne peut pas être coexistante avec l'enjeu de l'apprentissage.
J'ai lu un livre récemment que j'ai trouvé hyper intéressant, qui m'a fait penser un peu à ton livre. C'est l'éloge
de la médiocrité.
Petit éloge de la médiocrité, exactement.
Oui.
Exactement.
Guillaume Meurice.
Exactement. Et j'ai trouvé beaucoup de similarités, en tout cas, enfin le fond est probablement partagé d'une certaine manière entre vos deux livres, et ça me faisait la réflexion de, est-ce que le souci c'est pas l'ego en fait? Tout est recentré sur l'ego, l'individualisme, nous, nos notes, et on a perdu complètement cette dimension collective, et on a tous l'impression, on veut devenir quelqu'un de sûr de soi, qui ne doute de rien, qui a un avis sur tout, comme tu le disais tout à l'heure.
Oui. Alors en fait, oui, il y a une confusion entre confiance en soi et estime de soi. C'est-à-dire, on peut avoir l'estime de soi qui est celle que, voilà, j'existe, je suis un être complexe, j'ai ma personne, je suis attachée à cette dignité que aussi j'octroie aux autres. Par contre, je ne suis pas confiante de moi partout, sur tous les domaines. C'est en ça que je trouve éloge de la médiocrité, dans le sens où avouer à soi que nous sommes médiocres dans la majorité des domaines, hein, et que ce n'est pas grave parce que ça ne touche pas notre estime de nous-mêmes en tant qu'être humain. Par contre, on devient plus intéressant quand on fait les choses à plusieurs. C'est-à-dire que moi, je suis médiocre dans ça, toi, t'es médiocre dans ça, toi, t'es médiocre. Et en fait, on se met ensemble et du coup, ça donne quelque chose de plutôt intéressant, mais toujours pas top, hein, parce que quand même, finalement, on est une espèce médiocre aussi, hein, il faut l'avouer, hein, on fait avec les moyens du bord, qui sont ces moyens de ce cerveau, qui lui-même limité, distrait, fatigué très vite. Et en fait, il y a quelque chose de, je trouve, très libérateur dans cette pensée. C'est que, en fait, quand on est en paix avec cette idée, en quelque sorte, on se pose moins de questions sur cette injonction à briller, cette injonction à impressionner. Et est-ce que c'est pas cela qui fait que on a finalement confiance en nous-mêmes? Ça veut dire que, justement, parce qu'on ne cherche pas à impressionner, qu'on tente.
Et on lâche la pression, oui.
Qu'on lâche la pression et qu'on devient du coup, on devient plus intéressant parce qu'on est plus présent, parce qu'on est plus disponible, parce qu'on n'est pas distrait par cette volonté d'impressionner. Et donc, en fait, tout le monde est gagnant et gagnante, même si je m'accorde avec Guillaume Meurice, c'est que gagner n'est pas nécessairement un objectif à poursuivre. Parce que peut-être que, je vais paraître un peu comme Paulo Coelho, que je n'apprécie pas du tout, mais que je veux dire que voilà, peut-être tout est dans le chemin. Tout est dans le chemin, en fait, gagner, finalement, c'est pas quelque chose... Vous voyez, des enfants qui jouent au foot, ils gagnent, ils perdent, ils s'amusent de la même façon. D'ailleurs, s'ils gagnent tout le temps, le jeu n'est plus amusant.
On parle de talent, de réussite, etc. Quelle serait pour toi la définition de la réussite, ta réussite personnelle? Ce serait quoi?
Alors oui, je suis en pleine réflexion sur cela en ce moment. Et je pense aujourd'hui, pendant qu'on est en train d'enregistrer, que c'est celle d'être disponible. C'est en fait quand je suis en train de coucher mon fils le soir et je suis en train de lui raconter l'histoire, et des fois je n'ai rien d'autre que de lui raconter cette histoire. Tout mon cerveau est là pour lui raconter cette histoire. Et en fait après je sors de sa chambre et je suis bien. Est-ce que c'est pas ça la réussite? C'est d'avoir construit une vie indépendamment de ce que nous faisons comme métier, indépendamment de ce que nous faisons, de ce que nous avons comme capitaux. Est-ce que c'est pas avoir cet art de vivre qui fait que quand on est là, on est là. Et que je suis pas en train de me dire qu'il faut que je fasse ça après, qu'il faut que je suis là. Et j'ai une grande admiration pour les personnes qui sont là. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Je les vois chez les enfants, souvent. Je les vois chez les personnes seniors, des fois. Et en fait, je me dis, c'est des gens qui réussissent leur vie. Parce que il y a vraiment une beauté quand on est dans le moment, indépendamment de ce qu'il est. On est là dans le deuil, on est là dans la dépression, même si, alors je parle pas de la maladie, du trouble, mais je parle de, on est là dans les chagrins, on est là dans les joies, on est là, on est présent et on n'a pas hâte de passer à autre chose. Alors bien sûr, je comprends que nous avons on prévoit les choses et bien sûr on anticipe et on a des choses à faire, mais qu'on arrive tous les jours à décrocher, à vivre des moments pleins, je dirais que c'est ça. Plus on a ça et plus on a réussi.
Top. T'as beaucoup parlé de ton fils. Comment t'as vécu la maternité? Tu as parlé de ta tribu au Liban, de toutes ces femmes, de toutes ces tantes, ces cousines, ta sœur, ta maman, enfin tout cet écosystème que tu avais autour de toi, ce collectif. Et la maternité, c'est un moment, c'est un cap pour une femme où on parle beaucoup du manque de système de soutien en Occident. Et toi, venant du Liban, comment tu as vécu cette étape de ta vie?
Oui, alors bien sûr, je ne peux pas prétendre que je me suis complètement déconstruite au niveau de comment je vois la maternité. D'ailleurs, j'ai réalisé à quel point je suivais encore les modèles culturels dans lesquels j'ai grandi quand j'ai eu mon enfant. Ça veut dire tout de suite le rôle de mère qui est, que j'ai, voilà, ce modèle, que j'ai grandi dans ce modèle. Et en fait, il est revenu comme une claque. Ça veut dire, je n'arrivais pas à déléguer, par exemple, je voulais tout faire, je voulais tout faire bien. Je m'intéressais moins à ma carrière d'un coup. Et je me dis, waouh, en fait, c'est quand même impressionnant à quel point ce modèle s'était imprégné en moi. Il fallait aussi que je, depuis, en fait, sa naissance, c'est-à-dire ça fait 6 ans que je m'intéresse beaucoup à ça. Comment ces modèles nous imprègnent. Et en fait, il y a une grande part d'amour juste tsunamique que j'ai envers lui. Aussi, je me questionne sur quelle est la part que j'ai construite dans cet amour et quelle est la part. Et en fait, après, il est vraiment très drôle. Donc, il y a aussi ça. Je me dis, en fait, même s'il était un enfant dans un parc, je l'aurais trouvé très cool, ce gamin. Donc, en fait, j'aime beaucoup passer du temps avec lui. Il me permet de retrouver le jeu qui nous manque, hein, en tant qu'adulte. Et aussi, à travers ces questionnements éthiques, hein, parce que maintenant les enfants, c'est genre voilà, l'environnement et tout ça. Moi-même, je deviens une meilleure personne. Donc, je pense que voilà, il y a une éducation partagée et réciproque qui se fait entre lui et moi. Il me transmet des choses, je lui transmets des choses. Je pense qu'il y a aussi un peu comme le féminisme nous permet de réaliser et de comprendre toutes les formes d'oppression. Il y a aussi le rapport adulte-enfant qui fait questionner sur ces sur l'oppression que peut vivre l'enfant de la part de l'adulte et aussi d'une manière réciproque comment on peut être soumise aussi au rôle familial. Et voilà, donc en fait c'est un questionnement et un bonheur permanent.
Quelle est ta relation avec le Liban ?
Passion. Passion destructrice mais aussi très plaisante, un peu comme toutes les passions. Donc en fait moi je pense que toutes les 3 mois je me dis je me casse, je vais au Liban. Et après, le Liban me donne de très bonnes raisons de revisiter
ta décision.
Mes décisions à chaque fois. Chaque fois, c'est presque une blague. Hein. C'est-à-dire à chaque fois que je dis oui, je me demande, boum, explosion. Surtout, non. Après, voilà, ça, il faut pas que je tombe dans le piège de penser que les choses arrivent pour une raison. Ce serait très narcissique de croire qu'une ville explose pour me donner un signe. Mais je pense que je n'ai jamais vraiment quitté le Liban. Je l'ai quitté géographiquement, mais je suis portée par tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Un rapport qui est, encore une fois, cette idée d'appartenir des racines, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui définit nos racines ? Je ne sais pas, mais... Je laisse faire, en fait, cet attachement. Je le fais passer par la cuisine, je le fais passer par la musique et par le fait que j'ai toujours les mêmes amis qui y habitent et que j'ai toujours besoin de les retrouver. Et besoin de retrouver la géographie, l'air, les odeurs. Donc, je dirais que le Liban, c'est un lieu au bord de la Méditerranée dans lequel il y a beaucoup de choses que j'aime.
Qu'est-ce que tu dirais à la Sama enfant ?
Tais-toi. Écoute, je parlais beaucoup. je pense que vraiment, il y a une amie au Liban qui me dit que quand je repars en France, elle entend toujours ma voix dans la maison. Tellement j'ai toujours beaucoup, beaucoup parlé et je suis arrivée à maintenant, les mots me fatiguent. Je me dis que j'ai besoin d'autres formes d'expression. Mais je lui dirai, écoute plus et profite des gens qui sont encore là parce qu'après ils vont mourir et puis ça ira bien.
Génial. Sama, on va passer à la dernière partie de l'interview. Chaque Shoka et le but c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise ?
Non.
Il y en a une, moi, que j'ai retenue du livre que j'ai trouvé qui a été pas mal reprise, c'est quand on peut, on veut.
Ah oui. Alors j'en ai une que j'ai notée dans mon carnet. C'est material first, structure after. Ça veut dire d'abord la matière, ensuite on structure. Et ça c'est quelque chose en fait qui me motive quand je dois commencer à travailler sur quelque chose ou même en fait c'est d'abord aller se ressourcer et ensuite structurer. Ne pas avoir ne pas être impatiente pour créer une structure. Et ça c'est l'écrivaine, enfin celle qui a écrit Fleabag. Phoebe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle qui le dit comment elle écrit. Elle écrit d'abord les blagues et ensuite elle trouve des histoires pour mettre ses blagues dedans. Et voilà, donc ça c'est en ce moment, oui, c'est quelque chose que je lis tous les jours à chaque fois que j'ouvre mon carnet.
Et c'est comme ça que tu as écrit le livre ? Tu as mis un peu toutes les idées, tu as
sorti
à la fin.
Oui, en fait, c'est à chaque fois que j'ai fait quelque chose qui a du sens, c'était ça. C'était de vraiment d'aller faire un peu remplir le panier de plein d'inspirations et ensuite créer les liens.
Un livre ?
Je suis en train de lire Mérite Annabelle Alouche et je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai envie de lui parler ? Et en fait, finalement, on va pouvoir se parler, on va pouvoir débattre, c'est en août.
Génial.
Voilà, je me dis, oh là là, on a visité les mêmes endroits dans la pensée.
Un lieu ?
Un lieu, la mer, surtout la Méditerranée, qui, voilà, c'est la maison, je dirais.
Ta plus grande fierté ?
La gentillesse de mon fils.
Une chanson ?
C'est Zaki Nassif en ce moment aussi, il me touche, c'est un chanteur libanais. J'ai vu un concert il y a 2 jours et en fait, je suis très influençable. Donc depuis le concert, j'écoute que ça.
Zaki Nassif, tu dis, je vais écouter, je connais pas.
Oui. Après, il a écrit beaucoup pour d'autres chanteurs et musiciens.
Une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ?
Je dirais Maya Tahiri. Maya Tahiri qui en fait crée des histoires et des liens entre des artistes du monde arabe et qui raconte en fait leur vécu en France. Et le rapport à leurs origines. Et je trouve cette femme, je la trouve comme une personne, elle est incroyable. Et je suis toujours curieuse. En fait, elle produit des choses avec beaucoup de qualité.
Génial. On arrive à la fin. Je te remercie infiniment, Sama. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi.
Merci, Bouchra. C'était un plaisir partagé.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heya_podcast. À très bientôt.